le magazine des Nations Unies.
La question de retrait de la MONUSCO, il en était question cette semaine. Une mission de la revue stratégique indépendante de la mission a rencontré à Kinshasa les comités exécutifs du mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba. Les détails dans ce numéro du magazine des Nations Unies. La Terre Rouge, c'est à la fois un projet intégrateur et une coopérative sur l'agroforesterie. Il réunit réfugiés sud-soudanais et communautés locales du Haut-Ouélé et de l'Ituri. Les HCR et les gouvernements ont lancé un atelier sur le projet ce week-end. La représentante régionale du HCR est notre invitée. Enfin, Ebola, l'Union africaine s'implique davantage dans la riposte contre l'épidémie. Une vingtaine de volontaires recrutés ont été formés dans la capitale.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bienvenue à ce 384e numéro du magazine des Nations Unies. L'équipe de la revue stratégique indépendante de la MONUSCO en séjour à RDC a rencontré mercredi à Kinshasa les coordonnateurs du comité exécutif du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, Claude Ibalanki et Colomba. L'objectif de cette mission onusienne, qui est conduite par Youssef Mahmoud, consiste à s'imprégner de la vision des nouvelles autorités nationales, notamment du coordonnateur du MNS sur la question du retrait de la MONUSCO dont les mandats en cours prend théoriquement fin le 20 décembre prochain. C'est dans la perspective de proposer au Conseil de sécurité des termes d'ajustement du nouveau mandat de la MONUSCO et des modalités de son retrait de la RDC. Des détails avec Jean-Désiré Kanyama.
Au dire de Youssef Mahmoud, cette séance de travail cadre avec la recommandation du Conseil de sécurité au secrétaire général de l'ONU de procéder à l'évaluation des défis sur la paix et la sécurité en RDC, assorti d'un plan de retrait échelonné, progressif et exhaustif de la MONUSCO. Selon le chef de cette mission, l'examen stratégique devrait se faire, notamment en consultation avec le gouvernement congolais. C'est ce qui explique la nécessité de s'imprégner de la vision des nouvelles autorités congolaises sur ces questions, notamment avec le coordonnateur du MNS, Claude Ibalanki. L'accent est mis sur l'accroissement des capacités du gouvernement congolais et de l'équipe des pays des Nations Unies pour leur permettre d'absorber les tâches précédemment dévolues à la MONUSCO. Et conformément aux priorités de la mission, pendant la mise en œuvre du plan de retrait et des objectifs et indicateurs, des options seront proposées pour adopter la future configuration des composantes civiles, policières et militaires de la MONUSCO, notamment réduisant les effectifs de la force et de la présence civile, a martelé le chef de l'équipe de la revue stratégique indépendante de la MONUSCO.
Ebola, l'Union africaine continue à s'impliquer. 20 autres volontaires de l'Union africaine seront bientôt au théâtre des opérations de lutte contre la maladie à virus Ebola. Après recrutement, ils ont été briefés sur la tâche qui les attend sur le terrain ce mardi à Kinshasa au cours d'un atelier organisé par les Centres africains de prévention et de contrôle des maladies, Africa CDC, à des mécanismes d'intervention de l'Union africaine. Plus de détails avec Jean-Pierre Elalikoko.
Il s'agit des 10 épidémiologistes, de 7 agents de prévention et de contrôle des infections, d'un technicien de laboratoire, un logisticien, d'un gestionnaire de données. Ils ont été orientés et briefés sur les enjeux et défis qui les attendent sur le terrain au Nord Kivu, Sud Kivu et en Ituri. Ils vont aider les équipes de la riposte contre l'épidémie à virus Ebola. Madame Sonia Sidibé, du département des ressources humaines de l'Union africaine, explique les critères de sélection.
La sélection tenait compte d'abord de ceux qui étaient dans la base de données des volontaires. Il y a aussi ceux qui étaient dans la précédente organisation qui était la COA pour la lutte contre l'Ebola dans les pays ouest-africains. Et puis il y avait aussi ceux qui ont postulé l'appel que nous avons fait en ligne.
Pour sa part, le docteur Benoît Kibela Ilunga, directeur à la direction de la lutte contre la maladie au ministère de la Santé, s'est félicité de l'implication de l'Union africaine.
L'Union africaine, à travers ces différents mécanismes d'intervention, et Africa CDC donc est en premier plan pour justement aider à cette lutte.
Les 30 volontaires formés à Kinshasa et à Goma se joindront aux 37 déployés, ce qui fera au total 67 volontaires de l'Union africaine.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et le gouvernement ont lancé jeudi à Kinshasa l'atelier des préparations de l'opération Terre Rouge, un ambitieux projet d'agroforesterie communautaire de 15 000 hectares déployé dans l'Itourie et les Hautes-Ouélé. Ce projet vise à organiser la coopérative entre les communautés locales et les réfugiés sud-soudanines. Madame Anne Encontre, représentante régionale du Haut Commissariat pour les réfugiés HCR. Jean-Pierre Lallier Coco et Rosalie Rangui ont assisté à l'événement.
Ce projet est une initiative conjointe du HCR et de la Commission nationale de réfugiés. Il vise à organiser une coopérative entre les communautés locales et quelques 105 000 réfugiés sud-soudanais. Madame Anne Encontre, représentant régional du HCR, a décliné en quatre points les critères de succès du projet.
Obtenir la décision politique ferme du gouvernement congolais et d'appui, garantir la qualité parfaite de montage juridique pour les statuts de la coopérative et pour la sécurité des dispositifs agroforestiers.
L'assistance a suivi trois exposés. L'introduction et cadre général du projet développé par Olivier Mouchieté, consultant national en agroforesterie. Maître Jadot Paloukou, avocat au barreau de l'Ituri Ouélé, s'est penché sur les cadres juridiques du projet. Et Malik Mwamba, du ministère de l'Environnement, a circonscrit les concepts des bassins de production agricole. En conclusion, Maître Fata Olivier Atiza, représentant régional adjoint du HCR, a appelé à la solidarité.
Nous savons compter sur vous pour soutenir cette initiative en tant que gouvernement de la RDC, bailleur de fonds, agence du système des Nations Unies et le secteur privé.
La représentante régionale du HCR, Madame Anne Encontre, est notre invitée.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La ville de Kinshasa a appelé à devenir la mégapole du corridor ouest à l'horizon 2050. Un symposium national sur les fonciers s'est tenu dans la capitale du 9 au 12 septembre cette semaine et s'est notamment penché sur cette projection. Une initiative de Nu Habitat et Expo Béton en partenariat avec le ministère de l'Urbanisme et Habitat. Le directeur pays de l'agence onusienne Abel Wallendom a ainsi pris une part active à ces symposiums. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur le directeur pays, bonjour.
Bonjour.
Kinshasa 2050, mégalopole du corridor ouest. Comment se dessine ce corridor d'abord?
Très bonne question, parce que la ville de Kinshasa en fait est une mégalopole qui est entre 12 et 15 millions de personnes aujourd'hui. Et les études ont démontré que c'est une ville à croissance exponentielle. Elle grandit très très vite, donc il est tout à fait important de commencer à réfléchir sur le développement de cette ville pour ne pas récolter les externalités négatives, mais plutôt en faire un facteur de développement pour la RDC. Donc en plaçant Kinshasa sur ce corridor qui fait la liaison entre plusieurs pays, en commençant par le Congo, mais également l'Angola, et puis tout l'ensemble des pays d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est, la ville de Kinshasa a un potentiel énorme de soutien au développement de ces différents pays.
Alors à quelles conditions il peut jouer ce rôle de corridor?
La première condition, c'est naturellement la sécurité, que la paix et la stabilité reviennent dans le pays, ça c'est important. Mais également la question de la gouvernance. Il faut qu'on puisse s'assurer d'avoir une bonne gouvernance sur place qui permette donc d'être le leadership de ce développement-là. Et sur cette base, je pense que le potentiel, on peut en parler, mais il y en a tellement qu'on ne pourra pas finir les citer ici. De par sa position en Afrique centrale, avec tout le potentiel naturel que la ville a du fait de ses forêts, mais également de tout le potentiel de la RDC qui pourrait être donc géré à partir de Kinshasa, tant en matière minière que les autres aspects énergétiques et autres.
Donc c'est autour de toutes ces conditions que vous organisez ce symposium?
Alors ce symposium a été organisé en collaboration avec Expo Béton qui a sa quatrième édition et qui a voulu donc mettre le phare sur la ville de Kinshasa pour montrer son importance. Nous avons saisi cette occasion pour célébrer également les 20 ans de coopération de Nu Habitat avec la RDC en se basant sur notre avantage comparatif qui est le travail que nous faisons dans le foncier, mais également le mandat de Nu Habitat d'accompagner le pays, d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du nouveau programme pour les villes qui a été adopté en 2016 à Quito, en République d'Équateur.
Kinshasa 2050, c'est en fait une projection. Comment Nu Habitat entend-elle s'impliquer dans cette projection?
Alors, comme nous l'avons dit, on y habite une position d'agence non résidente en RDC. Donc, la première étape pour nous, c'est de négocier avec le gouvernement un accord de siège pour lui permettre donc de s'implanter de manière durable et permanente dans le pays. Le deuxième travail que nous faisons avec le gouvernement, c'est l'élaboration d'un programme pays qui comprend l'ensemble des aspects d'intervention de l'Uni Habitat, en commençant par l'aménagement du territoire, la décentralisation, les questions de sécurité urbaine et la question focale qui est donc celle du logement décent pour tous les Congolais. C'est pour ça que nous saluons la décision du président de la République de faire un programme présidentiel de logements sociaux. Et je pense que si ce programme est mis en œuvre, il apportera donc un renouveau complet pour la population de la RDC.
La projection 2050 s'inscrit-elle dans l'agenda de développement durable dont l'échéance est 2030?
C'est une très bonne question. En fait, l'échéance de 2030, c'est pratiquement demain. On est en 2019, donc dans 11 ans, on sera en 2030. C'est pour ça que nous avons préféré avoir une projection à plus long terme qui permette d'avoir une certaine aisance de planification. Donc, en faisant une planification de ce genre à long terme, cela nous donne la possibilité de mettre en place des programmes vraiment cohérents qui non seulement accompagnent l'agenda 2030 du système des Nations Unies, mais également les priorités présidentielles qui sont vraiment à court terme sur les 5 ans. Et en prenant tout cela avec une projection de 2050, nous serons à même de réaliser quelque chose d'important pour le pays.
Et Uni Habitat est en coopération avec la RDC, ça fait 20 ans. Quels sont les résultats palpables et visibles qu'on peut retenir de cette coopération?
Le premier résultat palpable, c'est dans le domaine du foncier. Uni Habitat a permis de résoudre de nombreux conflits fonciers à l'est de la RDC. Et en se rendant compte que la résolution ponctuelle des conflits fonciers n'est pas la solution, nous nous sommes engagés dans la planification foncière participative. Donc nous faisons des plans communautaires d'occupation foncière qui sont mis à la disposition de la population. Et donc dans la même logique, nous avons continué avec l'appui au gouvernement dans la réforme foncière. Donc nous allons revoir complètement la base de la gestion foncière en RDC, en commençant par un document de politique foncière qui est en cours de consultation dans les 26 provinces de la RDC pour aller vers une relecture de la loi de 1973 qui nous paraît désuète en ce moment et qui n'aide pas donc à assurer une bonne gestion foncière dans le pays. Nous allons discuter avec le gouvernement pour voir dans quelle mesure s'il faut réviser cette loi, s'il faut élaborer une nouvelle loi, donc tout cela sera déterminé dans les négociations avec le gouvernement.
Est-ce qu'il y a des raisons particulières pour que vous vous intéressiez plus à l'Est de la République?
L'intérêt pour l'Est de la RDC est lié à l'analyse des causes des conflits dans le pays. Il est tout à fait clair qu'une des principales causes des conflits que nous rencontrons en RDC, c'est le foncier. Donc nous avons voulu nous focaliser sur la question foncière à l'Est de la RDC pour vraiment réduire de façon substantielle tous les conflits que nous rencontrons dans cette partie du pays, y compris les conflits armés. Mais il est tout à fait clair que le mandat de Uni Habitat est national ou même international et que nous pensons accompagner la RDC dans la mise en œuvre de son nouveau plan de développement dans le secteur de l'urbanisation globalement.
C'est ce qu'explique ce terme du foncier rural au nouveau programme pour les villes en RDC.
En fait, c'est toute la démarche d'Uni Habitat. Donc, comme je l'ai dit, en se basant sur notre avantage comparatif du foncier, nous voulons aller donc vers le soutien au processus d'urbanisation de la RDC pour en faire donc un capital positif de développement économique et social du pays.
Dans quels axes?
Alors, il y a déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'aménagement du territoire, donc s'assurer d'avoir un territoire aménagé et équilibré entre les différentes provinces, en se basant sur le potentiel de chacune de ces provinces, vers l'urbanisation des villes, donc pour permettre à chacune des villes, les principales villes de la RDC, d'avoir un plan de développement urbain cohérent et en touchant tous les services sociaux, eau, électricité, assainissement et autres, et comme je l'ai dit, la question centrale du logement, permettre à chaque Congolais de se loger de manière décente.
Monsieur le directeur Bey, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
En plus bref, deux projets pour appuyer la lutte contre la malnutrition en Ituri. Il s'agit des projets du Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation FAO, lancés le week-end dernier à Bunia d'un coût global estimé à 1 million de dollars américains, vise à soutenir environ 6500 familles affectées par les conflits et la maladie à virus Ebola dans les territoires des Djougou, Irumu et Mambasa. Autre projet bénéficiant d'un appui d'autres agences onusiennes dans le cadre de la lutte contre Ebola, cette fois à Bukavu au sud Kivu, c'est celui des médias. Un centre de monitoring vient d'être créé par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC. Ce centre va régulièrement faire les monitorings des émissions réalisées dans les cadres de la réponse à la maladie à virus Ebola. Un projet appuyé par l'UNICEF, l'OMS, en partenariat avec la division urbaine de la santé sud Kivu. Autre nouvelle, c'est le secours de la MONUSCO aux accidentés d'un train de la Société Nationale des Chemins de Fer SNCC. Le drame était survenu à 30 km de Nyunzu sur la voie ferrée vers Kalemi. Quelques heures seulement après cet accident, les casques bleus du contingent indien basé à Nyemba sont intervenus et ont évacué des rescapés encore sous le choc. Enfin, deux numéros verts mis à la disposition de la police nationale congolaise pour endiguer l'insécurité à Butembo. C'est une nouvelle stratégie de la police de la MONUSCO UNPOL pour permettre aux habitants de cette ville et ses environs de contacter rapidement et gratuitement la police en cas de menace. La MONUSCO va également fournir du carburant à la PNC pour faciliter la mobilité de ces éléments dans cette lutte contre la criminalité. L'opération a été lancée officiellement mercredi dernier par David Dressley, coordonnateur des interventions d'urgence de l'ONU pour la lutte contre Ebola.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Comment aider les quelques 105 000 réfugiés soudanais vivant aux Ouélé et en Ituri à la résilience et à une cohabitation pacifique avec les communautés locales? Les HCR et les gouvernements ont lancé jeudi dernier un atelier de préparation de l'opération Terre Rouge, l'idée étant de créer une coopérative sur l'agroforesterie. Pour en parler, Maguen reçoit ce dimanche la représentante régionale du HCR, Madame Anne, rencontre s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco.
Madame Anne Encontre, bonjour.
Bonjour monsieur.
Nous venons d'assister à l'atelier de préparation au lancement de l'opération Terre Rouge. En quoi consiste ce projet, madame?
Ce projet, l'opération Terre Rouge, l'objectif c'est de harmoniser les activités de réfugiés sud-soudanais en Ituri et au Ouélé. Ils sont déjà en communauté, ils ont les champs communautaires et l'idée c'est d'avoir un cadre juridique et formaliser l'arrangement pour les réfugiés et les communautés locales qui vivent ensemble.
Vous croyez que 105 000 réfugiés dans l'Ituri et dans le Haut-Ouélé vivent en harmonie avec ces populations? Vous pouvez le confirmer?
Ils sont plus ou moins la même population, la même ethnie, transfrontalière. Il y avait les réfugiés sud-soudanais qui étaient ici en RDC il y a quelques années. Ils sont répartis chez eux. Et maintenant, nous avons observé un afflux qui continue de sud de Soudan. Les réfugiés, ils sont en train de quitter le pays en cherchant paix et la sécurité. Parce qu'il y a le conflit qui continue, surtout en Équateur, la région Équateur. Donc, ils arrivent ici et ils vivent avec leur population, la population qui les accueille.
Revenons au projet. Dans sa phase pilote, ce projet implique 500 familles de communautés locales et y compris aussi 500 autres de réfugiés. Pourquoi avoir procédé de cette façon-là pendant qu'une certaine opinion voudrait voir s'appliquer la notion de proportionnalité?
C'est un début. Ça, c'est un projet pilote qui a commencé depuis quelques mois. Le lancement aujourd'hui, c'était de sensibiliser la population, surtout les bailleurs, les autorités ici à Kinshasa. Mais sur le terrain, les localités où se trouvent les réfugiés, les autorités locales, ils sont déjà en amour avec ce projet. Ils pensent que c'est un projet qui peut impliquer aussi les Congolais réfugiés qui sont en exil maintenant, qui commencent aussi à regagner leur pays. Comme ça, tous ensemble, ils peuvent travailler ensemble pour le développement économique, social et pour le pays et aussi pour l'Afrique, pourquoi pas.
On a remarqué dans la salle aussi que ces projets, qui est ambitieux bien entendu, comportent aussi certaines contraintes, certains risques même et certaines appréhensions au niveau de l'opinion, notamment en ce qui concerne la cohabitation entre le réfugié et les communautés locales. Comment est-ce que vous allez dissiper ces appréhensions, ces contraintes et ces risques?
Monsieur, vous savez, dans tous les projets, il y a toujours le risque. Si on ne fait rien, on ne va pas avoir de résultats. C'est un projet gagnant-gagnant pour toutes les personnes qui sont impliquées dans ce projet, puisqu'ils sont déjà en coopérative entre eux, le petit complot, ensemble, mais il faut élargir le projet pour avoir accès au marché en Ituri, mais aussi transfrontalier en Ouganda, Sud-Soudan. L'idée, c'est de commencer avec le projet tel quel, mais d'avoir la possibilité de faire plus, impliquer plus de monde. Avec le cadre juridique, bien sûr, il faut promouvoir le développement socio-économique et la cohabitation pacifique. Et s'ils sont ensemble, on peut toujours améliorer la façon dont ils vivent actuellement et mitiguer tous les risques.
Et dans le communiqué final, ici, on a fait appel aux partenaires. Et vous croyez qu'en travaillant ensemble, vous pouvez réaliser ce projet?
Oui, parce que pour le moment, c'est un projet sur le plan humanitaire. L'idée, c'est d'aborder le nexus de l'humanitaire et le développement. Et aujourd'hui, nous appelons tous les bailleurs, tous les intervenants de développement aussi de nous rejoindre, les partenaires du système des Nations Unies, bien sûr, le gouvernement principalement, mais la communauté aussi, communauté internationale, de nous rejoindre dans ce projet qui a beaucoup de promesses.
Et quel est le coût de ce projet?
Pour le moment, nous avons un coût de à peu près $500,000.
500 000 $?
Oui, ça c'est de tous les débuts. Mais nous visons 5 millions pour augmenter le projet et faire un peu plus large l'accès aux autres personnes qui sont intéressées.
Dernière question, pourquoi terre rouge, madame, et non terre verte, par exemple, lorsqu'il s'agit de l'agriculture ou même de la forêt?
Nous avons consulté largement avec les communautés sur le terrain en Ituri, avec toutes les discussions, puisque la terre est rouge. Là-bas, ils avaient décidé d'utiliser terre rouge, mais on peut toujours changer l'appellation. C'est pas cloué, mais c'était leur idée. La communauté qui s'en donnait l'idée d'appeler ça terre rouge.
Madame Anne, en contre, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur.
C'est la saison des récoltes d'arachides dans les champs communautaires et individuels au profit des réfugiés centrafricains et des populations autochtones dans les provinces du Nord et Sud d'Ubangi, fruit de l'approche que préconise le HCR avec le concours de son partenaire AIDS. D'autres détails avec Honoré Missenga Kalala.
L'information est du service de communication du bureau du HCR Nord-Ubangi. Il s'agit de la récolte de la saison A. Elle concerne les champs communautaires et individuels dans les camps de Boyabou, Inke, Bili et Mole dans cette partie de l'ex-Grand Équateur. Depuis quelque temps, réfugiés et populations autochtones de ces contrées cultivent ensemble différents produits agricoles tels le manioc, le niébé, le maïs et l'arachide. Cette approche du ASR participe à l'autonomisation des réfugiés d'une part et d'autre part renforce la cohabitation pacifique entre ces derniers et les autochtones. Les deux communautés, réfugiés et autochtones, bénéficient dans leurs activités champêtres de l'appui du HCR et de son partenaire EDES, un appui en outils laratoires et en semences notamment. Des terres arables, plus de 100 hectares, leur sont gracieusement accordés par les autorités locales sous les auspices de la Commission nationale pour les réfugiés CNR. Cette stratégie mise en œuvre depuis 2017 contribue ainsi à la sécurité alimentaire dans ces zones touchées par un afflux de réfugiés centrafricains depuis 2013, se félicite-t-on au bureau de l'agence onusienne à Badolité.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La campagne « Tous les enfants à l'école » a été lancée au Sud Kivu. Jean Kassami a posé la question sur les défis de cette campagne aux représentants de l'UNICEF dans cette province. Suivez la question et la réponse.
Oui, quels sont les défis majeurs exactement auxquels cette campagne vient répondre?
Les défis majeurs auxquels cette campagne vient de répondre, comme le gouverneur de la province l'a dit aussi, c'est que jusque-là, il y a encore un grand nombre d'enfants et adolescents en dehors de l'école, alors qu'ils ont aussi droit à l'éducation. Ce qui fait que non, c'est à la fois un rappel du travail ou des éléments que nous devons mettre en place pour que chaque enfant de cette province puisse avoir aussi accès à l'éducation de base et de qualité.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour chers auditeurs de la radio Okapi, je m'appelle Amboko Maduleo Modestine, je ne suis pas mariée, j'ai des enfants à charge. J'ai fait mes études primaires à Faradji de l'année 1975 à l'année 1981. Et également, j'ai commencé mes études secondaires à Faradji toujours, mais je n'ai pas dû terminer. Je me suis orientée à l'ITEM. À l'ITEM, je suis diplômée du niveau infirmière A2. Ensuite, j'ai dû travailler 3 ans. Après, j'ai eu le goût de venir pour poursuivre mes études supérieures à l'Institut technique médical de Kisangani. Depuis 1998, j'ai fini. Ensuite, j'ai dû travailler encore 2 ans avant de recommencer le cycle de licence. J'ai fait le cycle de licence de l'année 2001 à l'année 2003. Avant d'être à l'UNICEF, j'ai dû travailler après mes études au sein de l'ONG Fondation Femmes Plus à Kisangani 7 ans. Après, les contrats étaient finis, j'ai dû chômer un peu. J'ai repris encore toujours dans les ONG, dans les contrats à petite échelle. Ensuite, j'ai poursuivi au niveau de la fonction publique et au niveau de l'inspection provinciale de la santé, c'est ça, c'est toujours à Kisangani. Ensuite, j'ai eu l'embauche au niveau de l'UNICEF. Et c'est au début de l'année 2014 que je suis à Mbandaka. Et je travaille désormais avec UNICEF comme agence des systèmes des Nations Unies. Au sein de l'UNICEF, je suis chargée de communication pour le développement. Ensuite, je suis également point focal de la participation des enfants. Chaque matin quand j'arrive, je dois commencer par une petite prière dans mon bureau. Après, je dois voir la liste de mes activités planifiée. Et je commence par voir mes mails pour voir quels sont les mails prioritaires. Ensuite, je commence, selon l'ordre des priorités, à réaliser les activités planifiées. Parfois, vous planifiez les activités, vous ne les terminez jamais au cours de la journée parce qu'il y a encore d'autres priorités. Mais cela ne nous décourage pas. On continue toujours à le faire. Ce que vous n'avez pas fait aujourd'hui, vous le ferez demain. Ok, ce que j'aime aussi en cette organisation de l'UNICEF, c'est qu'on travaille vraiment dans l'unité entre collègues. Si vous êtes un peu affaibli à un certain niveau, il y a un collègue qui connaît, il vous apprend tout de suite. Ça, vraiment, j'aime. Travailler pour les enfants, c'est vraiment très bien. C'est déjà une passion pour moi. J'aime ça, et ça, c'est le plus beau cadeau que je donne à la nation congolaise. Travailler pour les enfants congolais. La préférence, j'aime le nez de chez moi. C'est mets composé de foufou avec l'ingaingaï, qu'on appelle osé. Alors, on prépare ce ingaingaï avec la pâte d'arachide et en y mettant un peu de poisson fumé. Ça, c'est très bien. J'aime la marche parce que je l'ai fait chaque week-end et parfois au courant de la semaine, au lieu de prendre les transports, je viens à pied et ça me fait du bien. J'aime aussi la musique, mais j'aime beaucoup le reggae parce que pour moi, je trouve que les messages qui passent à travers cette musique, ça m'inspire vraiment. J'aime aussi les cantiques chrétiens. Voilà, comme perspective d'avenir, après ma carrière au sein de l'UNICEF, j'aimerais être une femme utile comme je le suis maintenant au sein de l'UNICEF par le travail que j'y donne à faveur des enfants. Mais j'aimerais également être créative, donc créer des activités qui peuvent faire également sourire les autres. Donc c'est ça vraiment que je tiens à cœur. C'est à ce petit mot ce que je voudrais vous dire. Je vous remercie beaucoup d'avoir prêté votre oreille pour ce que je viens de dire.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capu.
Trois rendez-vous à retenir dans vos agendas. Déjà ce lundi 16 septembre, journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Le 20 septembre, journée internationale de la liberté. Et le 21 septembre, la journée internationale de la paix. Fin de cette émission qui a connu la réalisation d'Honoré Missenga Kalala qui était également au reportage. avec Jean-Pierre Elali Coco qui a coordonné cette émission. Moi c'est Julien Gala, je vous l'ai présenté avec les concours techniques des Polydor Basunga sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Merci de l'avoir suivi et excellente journée dominicale à tous.